désastreuse de la sélection nationale en Coupe du Monde samedi. Mais on ira d'abord dans un instant en Grande-Bretagne. Et bonsoir Christian Rudeau.
Bonsoir Franck.
En direct de Londres, on fera avec vous le bilan de la coalition Cameron Clegg un mois après les élections. Outre-Manche également, tout ce qu'il faut savoir sur le Bloody Sunday, c'est sur le site internet du Guardian. Hier, David Cameron a présenté des excuses 38 ans après le massacre des catholiques à Londonderry. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h.
Et pourtant elle tourne, saison 4, Franck Matheson.
On the steps of Downing Street yesterday evening, I said that Nick and I wanted to put aside party differences and work together in the national interest.
We've just been through an election campaign and now we have a coalition.
C'était il y a un mois, presque jour pour jour, David Cameron et Nick Clegg, bras dessus, bras dessous, ou presque, première conférence de presse commune du Premier ministre conservateur et de son allié libéral-démocrate. L'image a frappé les Britanniques. Comment ces deux hommes peuvent-ils s'entendre et afficher une telle entente après leur empoignade électorale? Un mois après, l'attelage tient-il la route? C'est la question du jour dont, et pourtant, elle tourne. Un premier bilan de l'étonnante coalition au pouvoir à Londres. Pour le moment, les Britanniques sont, semble-t-il, indulgent. On ne peut pas tout à fait parler de lune de miel, mais ils sont prêts à donner une chance au duo Cameron Clegg.
Assez bizarrement, ça semble marcher. Je suis assez intrigué de savoir comment les conservateurs et les libéraux démocrates peuvent travailler ensemble. Mais on peut espérer que cette politique du consensus peut marcher pendant un petit moment, le temps que la période difficile dans laquelle nous trouvons soit passée.
C'est très différent de l'arrivée au pouvoir de Tony Blair. C'était les jours heureux des années 90. C'était vraiment très différent. C'était la New Britannia, la nouvelle vague. Les gens étaient très heureux. Il n'y a rien de tout ceci en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement positif. On ne sait jamais.
Voilà, deux témoignages au hasard, partagés, mais qui reflètent assez bien l'état d'esprit des Britanniques en ce moment et que vous avez recueilli, Christian Rudeau, ces témoignages. Une sorte de vigilance bienveillante, en fait, on peut dire ça comme ça. Et du côté des partis, qu'en est-il, Christian?
Eh bien, d'abord, chez les libéraux-démocrates, qui se situent plutôt au centre-gauche, il a quand même fallu s'habituer à cet étrange mariage avec les conservateurs. On a pu entendre parler d'un certain malaise dans les rangs des Lib Dems, comme on les appelle ici. Mais au final, et c'est un point important, cette participation au gouvernement permet au troisième parti politique du pays de peser enfin réellement dans le débat. C'est ce que nous dit Stephen Goddard. Ce prof d'université était le candidat des libéraux-démocrates à Oxford lors des dernières élections législatives.
Dans un système qui n'est pas exactement un système de deux partis, mais il y a eu deux grands partis conservateurs, travaillistes, dont un est le gouvernement, l'autre c'est l'opposition, il y a une tendance que les libéraux-démocrates disparaissent entre élections, que les médias nous oublient. À présent, cela n'est pas le cas et ça ne peut pas être le cas. Quand nous avons des ministres, on ne va pas nous oublier. C'est pas forcément quelque chose de toujours positif, mais pour nous, la visibilité, c'est tout. Bien sûr, ce n'est pas exactement naturel de travailler avec les conservateurs, mais la nature d'une coalition, c'est qu'on travaille avec des gens qui ne partagent pas forcément vos idées. Et on fait ça pour faire passer le plus possible de vos politiques.
Forcément, il va y avoir des décisions très impopulaires, très difficiles qui vont être prises. Et on dit que le calcul des conservateurs, c'est de partager quelque part le fardeau et donc l'impopularité avec les libéraux-démocrates. Est-ce que vous ne risquez pas d'être les dindons de la farce, comme l'on dit en France?
Évidemment, il y a des risques. Mais si on est sérieux dans la politique, on est là non seulement pour argumenter, pour exposer ses politiques, etc., mais pour faire des choses. Il est vrai qu'il va y avoir des décisions impopulaires, mais ça, c'est toujours le cas dans le gouvernement. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bonne volonté dans les deux parties, qu'on reconnaît que c'est dans notre intérêt de travailler ensemble. Et il y a aussi de la bonne volonté de la part du public britannique pour le moment.
Alors chez les conservateurs aussi, on veut faire preuve de bonne volonté, mais il faut tout de même dire que l'aile droite du parti Tory reste très vigilante. Certains députés conservateurs demandent à leur leader David Cameron de ne pas faire trop de concessions. William Cash est de cela, ce député très eurosceptique, rappelle sans détour aux libéraux-démocrates qu'ils ne doivent pas se montrer trop gourmands.
C'est très important qu'ils ne commencent pas à exagérer en disant on insiste sur tel ou tel point. Je pense parce qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont le partenaire minoritaire et que le centre de gravité penche de notre côté. Nos lignes rouges sont très simples, c'est l'Union européenne et la souveraineté britannique. Sur la question de l'immigration, il y a bien trop d'immigrés qui exercent une pression trop forte sur nos services publics. Nous ne sommes pas contre les immigrés en tant que tels, mais il y en a juste beaucoup trop et nous ne pouvons plus faire face. La réduction de la dette, il va y avoir des coupes budgétaires, ça va être très dur, mais c'est nécessaire.
Oui, quelques lignes rouges à ne pas franchir, on l'a entendu. Alors, combien de temps ça peut durer? Voilà, en fait, la question qu'on se pose depuis un mois, Christian.
Oui, bien sûr, c'est toujours un grand point d'interrogation qui plane au-dessus de cette coalition. Mais je dirais que la question se pose aujourd'hui avec moins d'insistance. Alors, bien sûr, on est au tout début, le plus dur est encore à venir. Mais tout de même, il y a cette impression que ce mariage improbable peut marcher. Ça tient certainement à l'alchimie personnelle entre David Cameron et Nick Clegg. L'un et l'autre l'ont répété plusieurs fois. Ils veulent que la coalition dure pendant toute la mandature, à savoir 5 ans. Alors, est-ce vraiment envisageable? C'est la question que j'ai posée à Joey Jones. Il est journaliste politique à la chaîne britannique Sky News.
Je crois que c'est impossible de dire pour le moment. Ce qu'on sait, que ça va durer un peu, parce que les deux leaders, c'est vraiment, ils sont absolument convaincus que ça peut marcher. Et n'oublions pas que Nick Clegg et David Cameron, ils ont la loyauté de la plupart de leurs partis. Et surtout, n'oublions pas que les conservateurs ont cherché depuis 13 ans d'être au pouvoir, les libéraux-démocrates bien plus que ça. Maintenant qu'ils ont la possibilité de mettre en œuvre leur politique, ils vont pas juste par caprice rejeter cette possibilité parce qu'ils sont pas contents l'un d'après l'autre, parce qu'il y a eu des petites disputes entre certains. Mais pour le long terme, c'est beaucoup plus difficile de savoir.
I think we were right not to join the euro, and I think we were right to stay out of the euro, and actually in our coalition agreement with the Liberal Democrats.
David Cameron rappelle qu'il est totalement opposé à une adhésion de Londres à la zone euro. C'était le 20 mai dernier lors de la visite du Premier ministre britannique à Paris. L'Europe, c'est la principale différence, bien sûr, entre conservateurs et libéraux démocrates. Et l'une des raisons, Christian, pour lesquelles on s'interroge sur l'espérance de vie de la coalition.
Oui, c'est clair que s'il y a un sujet sur lequel les conservateurs et les libéraux démocrates n'ont rien en commun, c'est bien l'Europe. Les Lib Dems sont traditionnellement très europhiles. Malgré tout, les premiers pas de David Cameron sur la scène européenne ont quelque peu rassuré les libéraux-démocrates et d'ailleurs aussi le reste de l'Union européenne. Certes, David Cameron reste farouchement opposé à l'euro. Il a promis des référendums pour protéger la souveraineté de la Grande-Bretagne si nécessaire. Au Parlement européen, ses eurodéputés siègent avec un groupe de petits partis nationalistes très eurosceptiques. Mais en même temps, David Cameron a tout de même réservé sa première visite à l'étranger à Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et selon Stephen Wall, qui a été le conseiller de Tony Blair sur les affaires européennes, David Cameron ne peut pas tourner le dos à l'Europe.
Nous nous attendions à un gouvernement conservateur très eurosceptique, probablement le gouvernement le plus eurosceptique depuis Margaret Thatcher. Même sans la coalition, il y a toujours une différence entre opposition et gouvernement. On dit en anglais que si vous êtes en opposition, vous vous réveillez le matin en se disant « qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ?» En gouvernement, vous vous réveillez en disant « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Et de près, les intérêts britanniques, si vous êtes en gouvernement, paraissent un peu différents. D'abord plus compliqué, mais comme vous le dites, nous sommes en coalition et les conservateurs sont en coalition avec le Parti libéral qui a une réputation et une histoire d'être beaucoup plus européen que tous les autres partis britanniques.
Comment voyez-vous les rapports entre David Cameron et Nicolas Sarkozy et Angela Merkel? Bien évidemment, ça a été les premières personnes qu'il a été rencontré.
Je crois que, surtout de la part d'Angela Merkel, elle était assez contrariée par les questions des conservateurs au sein du Parlement européen. Mais le fait est que Cameron, maintenant, est Premier ministre. Il est nécessaire qu'ils trouvent un moyen de coopérer ensemble. Et pour la grande majorité des sujets, les trois, ils ont des intérêts en commun. Je parlais de l'énergie, du climat, questions économiques, l'Iran, le Moyen-Orient. Sur tous ces sujets, il y a un grand intérêt de la part des trois gouvernements de se mettre d'accord. Les premiers pas du gouvernement ont été pragmatiques. Nous aimons dire en Grande-Bretagne que nous sommes les grands pragmatiques en Europe. Ce n'est pas vrai, nous sommes les grands idéologues de l'Europe. Mais dans ce cas, je crois que les premiers pas ont été plus pragmatiques qu'idéologiques.
My lords and members of the House of Commons, the first priority is to reduce the deficit and restore economic growth.
Ça, c'était le 25 mai, rituel immuable en Grande-Bretagne, le discours de la reine, les grandes lignes du programme du nouveau gouvernement. Et Elisabeth II insiste sur la réduction des déficits. C'est le grand sujet de ces dernières semaines, Christian. Régime sec à Londres, en quelque sorte. David Cameron l'a plusieurs fois répété d'ailleurs.
Oui, il a vraiment préparé l'opinion aux mesures d'austérité qui sont encore à venir. C'est de bonne guerre. Il a dit que l'état des finances était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Une façon de prévenir que les coupes budgétaires et l'augmentation des impôts, on parle notamment d'un relèvement de la TVA, que cette potion sera encore plus amère que prévu. On en aura le cœur net dans 6 jours quand le chancelier de l'échiquier, George Osborne, va présenter son collectif budgétaire, son budget d'urgence. Écoutons à nouveau le journaliste politique Joe Jones.
On va savoir beaucoup plus clairement ce que va faire le gouvernement sur le plan fiscal après le budget. On n'a pas eu les décisions sur les coupes des budgets des ministères qui vont être extrêmement sévères. Ça va venir dans les mois à venir. C'est là que les mesures du gouvernement vont commencer à toucher les gens, à toucher l'électorat. Et c'est là qu'on va avoir une meilleure idée de ce que pensent les gens vraiment sur cette coalition en période de récession, en période économique difficile pour le pays.
Là, on est sur la place du Parlement à Londres. Un village altermondialiste s'y est installé. En Grande-Bretagne, la mobilisation sociale n'est pas aussi naturelle, on va dire, qu'en France, par exemple. Mais ici, on entend des voix contestataires, Christian.
Oui, c'est d'ailleurs un campement improvisé qui ne plaît pas à tout le monde, et notamment qui ne plaît pas aux conservateurs, au maire conservateur de Londres, Boris Johnson, qui a demandé l'expulsion des manifestants. Mais il faut dire que, hormis ce petit village altermondialiste, on ne sent pas une montée des tensions sociales en Grande-Bretagne. Certes, le plus gros syndicat du pays, Unite, cherche à organiser un front uni pour riposter à la rigueur que David Cameron ne manquera pas d'imposer. Mais franchement, pour l'heure, on n'est certainement pas dans un scénario à la grecque. Il y a un attentisme, presque une résignation des Britanniques, mais qui sait, ça peut changer avec les premières mesures d'austérité. En tout cas, c'est une apparente passivité que regrette Dominique, l'un des manifestants que j'ai rencontré sur le square du Parlement.
Je suis totalement solidaire de ce qui se passe en Grèce et dans d'autres pays. Je suis prêt à faire comme eux, à manifester, à prendre possession du Parlement. Mais je ne sens pas les Britanniques prêts à faire la même chose. Je ne sais pas si c'est une question ou quoi. Dans d'autres pays, ils ont plus cette énergie en eux. Les gens en Angleterre vont se plaindre, mais chez eux, dans leur maison.
L'atmosphère unique de la Chambre des communes où le Premier ministre britannique affronte directement l'opposition et même son propre parti, souvent. L'opposition, justement, les travaillistes, difficile pour eux d'exister en ce moment.
Oui, d'autant plus qu'ils se cherchent un nouveau leader. Il y a 5 candidats pour succéder à Gordon Brown. L'ancien ministre des Affaires étrangères, David Miliband, fait figure de favori. J'ai assisté à une réunion publique cette semaine. Les Anglais appellent ça des hustings. Les candidats répondent aux questions de l'assistance. Et je dois dire que les travaillistes ne donnent pas l'impression d'être trop sonnés par leur défaite. Après tout, ils n'ont pas été laminés aux élections comme ils le redoutaient. À la fin de ce hustings, j'ai interviewé Ed Balls. C'est l'ancien ministre de l'Éducation, très proche de Gordon Brown. Il est un candidat très sérieux pour cette course au leadership travailliste.
Je pense que le Labour est dans un bien meilleur état qu'on aurait pu imaginer pour un parti qui vient juste de perdre une élection. Nous avons de réelles chances de revenir au pouvoir rapidement. Vous avez ici un groupe de bons candidats pour le leadership. Il y a un réel sentiment d'unité. Je pense qu'on peut gagner à nouveau. Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles idées qui sont sorties. Nous avons parlé de ce que nous avons mal fait, de ce que nous devons faire pour le futur. Je crois que c'est important que nous respections nos électeurs traditionnels. Dans beaucoup de choses que nous avons faites, nous avons été fidèles à nos valeurs, mais pas tout le temps. Par exemple, dans le traitement des salariés du secteur public, on n'a pas toujours bien fait, donc retourner à plus de justice, de solidarité, c'est ce que nous devons faire.
les travaillistes bientôt au pouvoir, pas gagné, hein, mais si la coalition Lib Dem conservateur ne tient pas les distances, la Grande-Bretagne pourrait, qui sait, revivre des élections bien avant 2015. Un mois de coalition à Londres, c'était le dossier du jour dans Et pourtant elle tourne, avec notre correspondant Christian Roudot. Merci Christian. Nicolas Sarkozy rendra visite à David Cameron après-demain à Londres. Ce sera d'ailleurs, vous l'avez sans doute entendu, une journée spéciale Londres sur Inter, 70 ans après l'appel du 18 juin. Et on repartira tout à l'heure au Royaume-Uni, où la journée d'hier restera dans l'histoire du pays. David Cameron a présenté des excuses solennelles après le Bloody Sunday de 1972. El sombrero fue pensado para la cabeza.